France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Les violences d'hier soir au Capitole à Washington ont fait un mort, une femme tuée par balle à l'intérieur du bâtiment où votent les sénateurs et les représentants américains. Le Capitole à Washington, c'est là où se sont introduits dans l'après-midi hier plusieurs centaines de manifestants pro-Trump. Les images marqueront l'histoire, élus portant des masques à gaz, agents de police en civil armes au poing, militants torse nu à la tribune du Capitole. Les élus qui devaient valider la victoire de Joe Biden hier ont été évacués, les militants finalement délogé. Un couvre-feu est entré en vigueur pour les heures qui viennent, tandis que la procédure de certification de Joe Biden par le Sénat a repris il y a quelques heures. Joe Biden, président élu, démocrate, qui aura la majorité dans les deux chambres. Les démocrates ont remporté en effet les élections sénatoriales en Géorgie hier et les deux sièges qui vont avec. Joe Biden évoquait hier une sédition, une agression sans précédent à propos de l'intrusion de militants dans le Capitole. Il avait fermement demandé au président Trump d'intervenir devant les caméras pour défendre la démocratie, ce qu'a finalement fait le président, tout en reparlant lui d'une élection présidentielle volée. Son compte Facebook ainsi que son compte Twitter ont été bloqués pour quelques heures. Le prochain Sénat sera démocrate donc. Un chaos politique, ce n'est pas une surprise, voilà ce qu'a écrit par ailleurs Barack Obama hier. Il évoque un moment de grande honte et de grand déshonneur pour la nation. Londres dénonce de son côté des scènes honteuses. Quand en France, Emmanuel Macron appelle à ne rien céder face à la violence de quelques-uns contre la démocratie. Nous reviendrons évidemment sur ces faits tout au long de la matinale sur France Culture. Les chiffres de contamination au Covid-19 dans l'Hexagone maintenant, ils ne baissent toujours pas sensiblement. Encore 25 000 nouveaux cas recensés hier selon Santé publique France. On saura ce soir si de nouvelles restrictions sont prises au regard de cette situation. Le Premier ministre Jean Castex donnera une conférence de presse à partir de 18h ce soir.
Mécanique du journalisme. Une collection de podcasts originaux de France Culture.
47 000 pages de documents ultra confidentiels.
Dans les coulisses des grands scoops de notre époque,
les noms de centaines d'entreprises
racontés par ceux qui les ont révélés.
Des géants de l'automobile, du luxe,
du cœur de l'Europe au paradis offshore, montage financier ultra secret, passe-droit à grande échelle, des LuxLeaks aux Panama Papers, le scandale de l'évasion fiscale, raconté par les journalistes Édouard Perrin et Élise Carlin sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Et si l'économie ouvrait la voie à un avenir meilleur ?
Sur France Culture, Tiffaine de Rocchini.
Cette semaine, on se met en quête d'une économie plus respectueuse de l'homme et de l'environnement. Comment orienter la croissance vers la santé et le bien-être ? La finance va-t-elle accélérer sa conversion à l'écologie ? Et comment pouvons-nous, individuellement et au sein de l'entreprise, participer à la construction de ce monde d'après ? Autant de questions dont on ne peut plus aujourd'hui faire l'économie.
Entendez-vous l'écho du lundi au vendredi à 14h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Il est 6h03, vous écoutez toujours France Culture, nous retrouvons Bruno David. Le miel est à l'honneur ce matin dans le monde vivant.
La chronique du jour fait un pas de côté. Elle est consacrée à un produit. Un produit que nous connaissons tous, que nous ne sommes pas loin de tous aimer. Un produit, fruit de la rencontre entre diverses espèces. Ce produit, c'est le miel. L'aventure entre les hommes et les abeilles a sans doute commencé il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, comme en témoignent des résidus de cire découverts dans une grotte d'Afrique du Sud, datée de 40 000 ans. Plus près de nous, une peinture rupestre de la Cueva de la Araña, la grotte de l'araignée, située près de Valence en Espagne, illustre une scène de récolte vers 6 000 ans avant notre ère. Encore plus proche, des traces de cire d'abeille ont été détectées dans les poteries néolithiques largement distribuées de l'Europe du Nord au Moyen-Orient, en passant par la France. Les ruches arriveront un peu plus tard. Elles témoignent de la riche inventivité des apiculteurs de toutes les époques et de toutes les régions, avec des ruches en paille, torchis, osiers, poteries, bois, de simples troncs évidés, des ruches rondes, coniques, conçues comme de simples abris avant l'invention des ruches à cadres aux alentours des années 1850. En Europe, le miel résulte plus spécialement du travail d'Apis mellifera mellifera, l'abeille noire mellifère. Cette abeille a su s'adapter à différents climats et à différentes flores, et ses populations se sont différenciées en écotypes, que ce soit sur le continent entre la Belgique, la Bretagne ou les Cévennes, ou sur des îles, comme en Écosse et en Corse, où vit un variant de l'abeille noire. Parfois, un intrus se glisse dans la relation bien huilée entre les hommes et les abeilles. Rendons-nous en Afrique de l'Est, au Mozambique. Un oiseau de la taille d'un merle, à la tête et au plumage brun, avec un plastron clair et le bec rose, il n'a rien de remarquable, et pourtant il l'est. Des hommes partent à la recherche de miel. Les humains ont sollicité l'oiseau en émettant une sorte de « brum », un son que traduisent les oiseaux comme étant « on a besoin de toi ». Notre oiseau répond par un chant spécifique, puis vole de branche en branche. Les humains dialoguent pour lui signifier « nous te suivons ». L'oiseau se dirige vers un nid d'abeilles caché dans le creux d'un arbre. Les hommes vont prendre le miel, l'oiseau aura droit à la cire des alvéoles. Tout le monde est content, sauf les abeilles. Une étude récente, conduite par les universités de Cambridge et du Cap, a démontré que les oiseaux répondaient deux fois mieux au « brum m » qu'à un autre son. Et surtout, la quête du miel est fructueuse dans 54% des cas avec l'oiseau, contre seulement 16% sans l'oiseau. Pourtant, cet oiseau n'est ni entraîné spécialement et encore moins domestiqué. Il s'agit d'un processus de coévolution entre deux espèces, la nôtre et celle de l'oiseau, indicator-indicator, le grand indicateur qui porte bien son nom. Une communication sonore s'est installée au bénéfice mutuel des deux espèces. Le miel, les ours aussi s'en délectent. Mais eux, ils n'ont pas réussi à coévoluer avec les oiseaux.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel, émission préparée avec Cyril Marchand et Corinne Amard, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la prise de son Jordan Fuentes. Et ce matin, on se réveille avec les musiques d'Ennio Morricone. 6 mois après sa disparition, après la disparition du maestro, le journaliste Jean-Christophe Manusso sort un ouvrage conséquent de 1000 pages consacré au compositeur, musicien, arrangeur et chef d'orchestre italien qui a composé, mine de rien, durant sa longue carrière, plus de 500 musiques pour le cinéma et la télévision. Ennio Morricone, entre émotion et raison, tel est le titre de l'ouvrage de Jean-Christophe Manusso qui vient de sortir aux éditions Camion Blanc. L'auteur est mon invité ce matin.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Il a passé toute sa vie à retranscrire sur le papier les musiques qu'il entendait dans sa tête, Ennio Morricone. Ça, c'est la musique d'un film qui n'est peut-être pas très important, Le Secret de Robert Enrico en 1974 avec Trintignant, Noiret et Marlène Jobert. Mais la musique est effectivement très belle. C'est une des musiques que vous préférez de toutes les musiques qu'il a composées. Jean-Christophe Manusso, bonjour.
Bonjour Toufik.
Et votre livre qui vient de sortir aux éditions Camion Blanc, Ennio Morricone entre émotion et raison, c'est un travail de 3 ans. Hein. Vous avez rencontré les gens qui ont travaillé avec lui, les spécialistes. Vous décortiquez très bien la musique d'Ennio Morricone. Comment d'ailleurs qualifier cette musique ?
C'est une musique qui a beaucoup de visages. En fait, on pourrait dire que Morricone est un compositeur vraiment multiforme. Il a, pour une bonne partie, son style est quand même lié à cet aspect très lyrique, très romantique, à consonance souvent religieuse. Et il y a un deuxième aspect de son travail qui est plutôt lié à l'atonal, à l'inquiétant, aux recherches bruitistes. Il a souvent incorporé des bruits dans sa musique. Et donc cet alliage entre le sucré et le salé, si j'ose dire, donne une sorte de fusion qui est vraiment unique.
Il y a aussi ce mélange entre la musique classique, la musique philharmonique et puis la culture populaire, parce qu'il a illustré des films de Sergio Leone, bien sûr, mais des films vraiment de culture très très populaire.
Tout à fait, et d'ailleurs ce n'était pas vraiment vers ça qu'il se dirigeait au départ, puisque Morricone a suivi un enseignement très classique à l'Académie Sainte-Cécile de Rome, un établissement prestigieux. Et il se voyait déjà comme un grand compositeur classique, mais malheureusement, dans les années 50, il s'est vite rendu compte que cet aspect n'allait pas être suffisant pour nourrir sa famille. Donc il a dû se tourner vers des formes plus populaires, comme les arrangements pour la radio, pour des chansons. Et petit à petit, c'est comme ça qu'il est arrivé jusqu'au cinéma, au début des années 60. Et bien sûr, c'était un métier qui était plus rémunérateur.
Alors, je rappelle que vous êtes journaliste, passionné de musique et de cinéma. Ce livre consacré à Ennio Morricone vous a pris 3 ans de travail, Jean-Christophe Manusso. Est-ce qu'on peut parler de période dans la vie et la carrière d'Ennio Morricone? Parce qu'à un certain moment, votre livre nous propose aussi cette entrée par période, la période française, la période italienne avant, la période américaine ensuite.
Oui, tout à fait. On peut déterminer comme ça des périodes qui sont vraiment très très visibles dans son œuvre. D'abord, bon, il y a eu évidemment le travail en Italie, la reconnaissance dans son pays. Ensuite, il a commencé à travailler à la fin des années 60 pour la France. Et cette période a duré jusqu'au milieu des années 80. Et petit à petit, sa renommée a commencé à grandir et est arrivée jusqu'aux oreilles des producteurs américains. Et à partir de 77 à peu près, a commencé sa carrière américaine, qui l'a vu travailler avec les plus grands réalisateurs, hein, que ce soit Terrence Malick, Brian De Palma, Roland Joffé ou encore Warren Beatty. Et cette période a culminé bien sûr avec le triomphe de Mission, qui a remporté un grand prix.
Et puis, il a travaillé avec des grands metteurs en scène. Est-ce qu'il avait la même latitude, la même liberté quand il travaillait pour des super productions américaines? Est-ce qu'il pouvait tout faire, Ennio Morricone, finalement, Jean-Christophe Manusso?
C'était vraiment sa philosophie de travail qui consistait à ne suivre que son intuition. Il aimait beaucoup interagir avec les réalisateurs et il adorait expérimenter, proposer de nouvelles choses. Donc oui, d'une certaine façon, il a toujours été libre, même sur des gros films, comme par exemple Les Incorruptibles, qui est une très grosse production. Il avait une liberté parce qu'il s'entendait bien avec Brian De Palma et il pouvait proposer des morceaux qui étaient vraiment, vraiment originaux pour un blockbuster comme ça.
Plus tard, quand les réalisateurs feront appel à Ennio Morricone, ils l'appellent pour faire du Ennio Morricone. Je veux dire que quand Tarantino, par exemple, fait appel à Ennio Morricone, c'est pour avoir le son d'Ennio Morricone. Mais alors, c'est quoi le son d'Ennio Morricone? C'est celui qui renvoie au western italien des années 60-70? C'est celui qui va affiner avec les réalisateurs français? Ou c'est le son Ennio Morricone tel qu'il a été diffusé par les grands films et les blockbusters américains?
Ben c'est un peu tout ça en fait. Le style de Morricone est tellement adaptatif qu'il garde son essence propre tout en adoptant de nouvelles couleurs. C'est vraiment quelque chose d'étonnant quoi, le style morriconien. Après moi dans mon livre j'ai essayé comme ça de déterminer un petit peu qu'est-ce qu'était ce fameux style morriconien qu'on a pu entendre en France dans dans les polars des années 70 ou aux États-Unis dans les films de Terrence Malick ou d'autres, ou en Italie avec chez Tornatore, on retrouve toujours cette utilisation déjà de la voix comme instrument. Ça, c'est un élément vraiment très important.
La voix, ça peut être un chant, ça peut être des sifflements, ça peut être juste des bruits de bouche.
Oui, tout à fait. C'est vraiment la voix dans toutes ses formes, que ce soit des sons gutturaux ou un sifflement ou un cri, ça peut être tout ce que la voix humaine peut faire. Ensuite, on peut parler aussi de réduction instrumentale, c'est-à-dire que contrairement aux grands compositeurs américains comme John Williams, Morricone utilise souvent une palette assez réduite d'instruments. Il préfère réduire la couleur instrumentale. Et il y a aussi, ce qui est très important chez lui, cette recherche du timbre, c'est-à-dire qu'il aimait retrouver de vieux instruments, que ce soit des instruments folkloriques ou ethniques, et les introduire comme ça en leur donnant une part importante dans l'orchestre. Et on peut parler par exemple du maranzano, hein, c'est la guimbarde sicilienne qu'il a utilisée à beaucoup de reprises, ou même l'ocarina, ou des instruments comme ça très rares que j'ai eu beaucoup de mal à reconnaître, j'avoue, en écoutant ces BO. Mais c'est vraiment un travail intéressant qu'il fait. Et il y a aussi, on peut parler aussi de l'utilisation des bruits issus du monde réel. Il y a une fameuse chanson italienne, Il Barattolo, dans laquelle il utilise un bruit d'une canette en métal qui tombe dans un escalier. Et il a réussi à introduire ce son dans la chanson pour justement lui donner son rythme.
Alors vous qui dites qu'Ennio Morricone a passé toute sa vie à retranscrire sur le papier les musiques qu'il entendait dans sa tête, est-ce qu'il travaillait avec les images? Est-ce que c'est d'abord les films, les images qui l'inspiraient? Est-ce qu'il travaillait aussi avec les bruiteurs?
Non. Morricone travaillait en fait en général plutôt à partir du scénario ou à partir d'un premier montage que le réalisateur lui montrait. Et dès qu'il avait vu ce premier montage ou dès qu'il avait lu le sujet du film, il se mettait tout de suite à composer. Et il composait toujours en écrivant avec son crayon sur ses partitions. Il ne composait jamais au piano. Et c'est comme ça qu'il rentrait dans la tête des personnages. Et si on peut vraiment dire une chose qu'a apporté Morricone au cinéma, c'est cette façon de traduire en musique ce qu'il se passe dans la tête des personnages et non pas ce qu'on voit en action dans la scène.
Et sans instruction du réalisateur ou du producteur du film?
Alors si, il y avait bien sûr des échanges avec surtout avec le producteur, et d'ailleurs Morricone se plaignait souvent quand il n'y avait pas cette interaction. Lui, il aimait justement les rencontres fortes avec des personnalités comme Léon ou Tornatore, avec qui il pouvait vraiment échanger, avoir un dialogue constructif autour du film. Et à un moment, il parle d'Almodovar, il a fait la musique d'Attache-moi pour Almodovar, et Almodovar ne lui faisait aucun retour. Et du coup, c'est là qu'il était le plus malheureux, quand il ne savait pas ce que le réalisateur pensait de sa musique. Il avait besoin de cette confrontation, qui était parfois orageuse, hein. Avec Léon, ça pouvait être assez orageux, mais qui débouchait sur des œuvres qui traversent le temps.
Ennio Morricone, entre émotion et raison de Jean-Christophe Manusso, vous restez avec nous après avoir parlé des rapports qu'entretenait Ennio Morricone avec les réalisateurs. On va voir aussi quel rapport il pouvait aussi entretenir avec les chanteurs et les chanteuses.
Thank you.
Jean-Christophe Manusseau, est-ce que Ennio Morricone avait les mêmes rapports avec les grandes voix, les chanteurs, les chanteuses? Là, on vient d'écouter Eda Dall'Orso, la voix d'Eda Dall'Orso, dans une variation de la musique qui l'a rendu célèbre. Il était une fois dans l'Ouest, interprété par l'Orchestra La Voce. C'était en 1977. Il avait les mêmes rapports avec les chanteurs et les chanteuses, Ennio Morricone?
Oui, il avait un rapport très proche et très fusionnel en fait avec avec les chanteurs et les chanteuses. La plus emblématique évidemment, c'est Eda Dall'Orso, puisqu'il a travaillé avec elle depuis le début des années 60 jusqu'à la fin des années 90, et il a fait appel à elle un nombre considérable de fois. Mais il a aussi travaillé avec avec d'autres chanteuses pour qui il donnait quasiment son répertoire, il ouvrait son répertoire à ces voix dont il tombait amoureux pour faire des albums, comme par exemple l'album qu'il a fait avec Amy Stewart en 1990. Il a aussi travaillé avec Lisa Gerrard, hein, la chanteuse de Dead Can Dance, ou en concert, il a aussi souvent fait appel à Dulce Pontes, hein, cette chanteuse de fado portugaise. Il adorait ses voix, et avec tous les gens qui ont travaillé pour lui, il était d'une très 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 grande exigence. Par exemple, si j'ai aussi interviewé des musiciens pour mon livre, et certains comme Giorgio Carnini, qui est un joueur d'orgue, ou Marianne Eckstein, qui est une flûtiste, m'ont raconté que Morricone aimait composer exprès pour eux des œuvres extrêmement difficiles, qu'il n'était les seuls à pouvoir la jouer.
Comment présenter l'arrangeur Ennio Morricone?
C'est quelque chose de particulier qui consiste à prendre une mélodie qu'a écrite un compositeur et à la transformer vraiment en une chanson en tant que telle. Et ça, il a eu cette activité au début de sa carrière, mais il a continué ensuite plus tard. Et ça consiste en fait à donner son corps à la chanson, à rajouter des bruitages ou à choisir les instruments. Et il a eu un succès énorme avec ses arrangements dans le monde entier. Hein. Morricone, c'est vraiment quelqu'un qui a plusieurs visages, comme je disais tout à l'heure, notamment arrangeur, compositeur de chansons, compositeur pour la salle de concert et compositeur de films. Et c'est le domaine pour lequel il est le plus connu, mais il a aussi d'autres visages.
Jean-Christophe Manusseau, vous dites que Ennio Morricone, pour composer ses musiques, n'avait pas besoin d'instruments de musique. On l'imaginait derrière son piano, mais vous dites que non, il avait juste du papier et un crayon.
Oui, ça lui suffisait. Il y a beaucoup de compositeurs, effectivement, qui composent sur le piano, mais lui, ce n'est pas le cas. Ce qui le rend très particulier, c'est qu'en plus, il écrivait lui-même ses orchestrations, c'est-à-dire qu'en général, un compositeur compose sa partition, et ensuite il y a d'autres personnes qui écrivent les partitions de chaque instrument, c'est ce qu'on appelle l'orchestration. Mais lui tenait à faire tout ça de A à Z, ce qui représente évidemment, vous l'imaginez, pour un grand orchestre, une somme de travail phénoménale.
Dans votre livre, donc, Jean-Christophe Manusseau, vous passez en revue les grandes collaborations d'Ennio Morricone avec les réalisateurs, mais pas seulement, aussi avec les musiciens, avec les chanteurs. Vous analysez ses musiques de films suivant les périodes. Vous donnez la parole à ses collaborateurs et à ses admirateurs aussi. Et puis, vous essayez de répondre à cette question, effectivement, très importante, pour ne pas dire essentielle, voire existentielle. Comment le maestro a-t-il pu concilier deux mondes très différents, c'est-à-dire évoluer dans le cinéma le plus commercial qui soit et écrire de la musique pour la salle de concert, ce que d'ailleurs Ennio Morricone appelait la musique absolue, ce qui m'amène à au titre de votre ouvrage, Ennio Morricone entre émotion et raison, Jean-Christophe Manusseau.
Alors déjà il y a le côté apparence physique. Hein. Morricone avait la réputation d'être très difficile. Il a plus le physique d'un professeur de physique que d'un compositeur de musique. Mais ça va plus loin et ça va aussi jusqu'à sa manière de travailler. Parce qu'il avait un rapport très théorique à son travail. D'ailleurs, il y a un théoricien italien qui s'appelle Sergio Micheli qui a écrit plusieurs bouquins de théorie sur la musique de Morricone. Et en fait, lui, il faisait toujours cette distinction entre musique appliquée et musique absolue. Mais quand on regarde, finalement, quand on fait un bilan de son œuvre, on se rend compte que ces deux mondes ne sont pas séparés. Les frontières sont poreuses. Et il allait constamment d'un univers à l'autre. Et ses recherches dans la musique absolue étaient utilisées au cinéma et inversement. Donc en fait, il a souffert pendant des années parce qu'il n'était pas reconnu pour sa musique de concert, sa musique absolue. Mais finalement, le fait d'avoir eu cette reconnaissance mondiale pour sa musique de film, finalement, ça montre bien que son savoir-faire, il était là. Il était dans cette fusion entre différents éléments, des éléments vraiment difficiles à tonaux et qui sont vraiment difficiles d'écoute, et un côté très mélodique, très romantique, qui est très accrocheur et qui peut toucher tout le monde.
Et en couverture de votre livre, on le voit avec une baguette. Il aimait être aussi chef d'orchestre, Ennio Morricone ?
Oui, il aimait beaucoup. Il s'est lancé dès le début des années 2000 dans une série de tournées faramineuses. Il faisait
des triomphales, ouais.
Oui, et triomphales dans le monde entier. Et il n'y a aucun autre compositeur de musique de film comme lui qui ait connu cette carrière sur scène. Les gens venaient par milliers pour l'acclamer. Et il y avait une telle ferveur dans ses concerts qu'on peut parler que de communion, quoi, de communion avec cette musique fabuleuse.
Ennio Morricone, qui est mort en juillet dernier, ça fait donc 6 mois. Vous, ça fait 3 ans que vous travaillez autour de son œuvre. À aucun moment vous l'avez souhaité le rencontrer lui-même directement, puisque vous avez préféré travailler avec ceux qui étaient très proches de ses travaux musicaux, ses collaborateurs, les musiciens, les réalisateurs.
C'était pas un choix prédéterminé. Au contraire, moi, j'avais plutôt envie de le rencontrer. J'ai fini par avoir un contact direct, mais à ce moment-là, c'était déjà trop tard parce que il y avait la pandémie qui était arrivée. Et non, c'est vrai que je regrette un petit peu de pas avoir pu le rencontrer, mais il y avait déjà tellement d'interviews et tellement de sources disponibles que j'avais déjà beaucoup de matière.
Entre émotion et raison, Ennio Morricone s'est édité chez Camion Blanc. Merci beaucoup Jean-Christophe Manusso d'avoir accepté cette invitation dans le Réveil culturel.
Merci à vous.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Acteur, metteur en scène, scénariste, écrivain et sociétaire de la comédie française, c'est un boulimique de travail au désir incessant de jouer et faire jouer.
En revenant par le train ou revenant à travers les rues de Versailles, dans le parc de Versailles, oui, c'était des lieux où j'aimais bien parler à voix haute.
Denis Podalydès se raconte à voix nue de lundi à vendredi à 20h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le concours de recrutement pour la maîtrise de Radio France est ouvert. Vous avez entre 9 et 15 ans ? Vous aimez chanter ? Inscrivez-vous avant le 31 janvier 2021 en téléchargeant le dossier d'inscription sur maisondelaradio.fr, rubrique recrutement des formations musicales.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Des partisans de Donald Trump ont envahi hier le Capitole à Washington, donnant des images surréalistes de militants assis à la tribune. Nous revivrons cette soirée dans un bâtiment symbole de la démocratie américaine. Une démocratie ébranlée par un président, Donald Trump, qui s'accroche au pouvoir. Twitter et Facebook ont décidé de le censurer hier. Nous y revenons aussi. Dans ce journal, tour d'horizon également des différents confinements en Europe en ce moment. Confinement porté par la souche britannique qui inquiète toujours outre-Manche. Et pendant ce temps en France, sachez que le Premier ministre devrait repousser ce soir l'ouverture des lieux culturels, des bars, des restaurants et des stations de ski. Conférence de presse prévue à 18h. Un avocat s'interroge sur la transparence de la vaccination. Son point de vue dans moins de 10 minutes. Le choc donc aux États-Unis après l'intrusion hier soir au Capitole à Washington de quelques centaines de partisans de Donald Trump. Ils ont réussi à pénétrer à l'intérieur du bâtiment et à interrompre la séance qui débutait pour certifier les résultats de la présidentielle de novembre dernier. Les manifestants ont brisé des vitres et ont pu pénétrer dans les deux hémicycles, le Sénat et la Chambre des représentants, avant d'être finalement expulsés en début de soirée. Le correspondant de France Culture aux États-Unis, Grégory Phillips, était au milieu des manifestants quand ils ont réussi à pénétrer dans le Capitole, symbole de la démocratie américaine. Il nous raconte.
La police du Capitole a beau lancer des grenades lacrymogènes, la foule pousse trop fort et au bout de quelques minutes, elle parvient à envahir la terrasse qui surplombe le mall, l'esplanade au cœur de Washington. Puis une première porte cède, les équipes de sécurité sont débordées et les partisans de Trump déboulent dans la salle des statues, sous la coupole. Ils atteignent le Sénat, puis la Chambre des représentants qui vient d'être évacuée et même le bureau de Nancy Pelosi, la speaker de la Chambre, où certains se font prendre en photo.
On reprend notre pays. Ce pays est à nous, pas à eux. Eux, ce sont des criminels. Et ce Joe Biden, il est foutu. Lui aussi, c'est un criminel. Regardez ces histoires avec l'Ukraine.
Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?
Moi, je vais profiter du spectacle.
En fin d'après-midi, dans un nuage persistant de gaz lacrymogène, les manifestants ressortent du Capitole. Ron est extatique.
C'est très beau. Il fallait faire ça. C'est le seul moyen de nous faire entendre. On est en colère, on est énervé. Nous sommes prêts à la guerre s'il le faut. Et non, Joe Biden n'est pas notre président. C'est Trump.
À la nuit tombée, les policiers du Capitole annoncent avoir repris le contrôle du bâtiment et la capitale fédérale est placée sous couvre-feu pour une douzaine d'heures.
Nous avons appris qu'une femme, une militante pro-Trump, a été tuée par balle hier soir, touchée dans le Capitole. Cette nuit, la certification de la présidentielle et de la victoire de Joe Biden a repris au Sénat. Il y a un couvre-feu à Washington pour quelques heures encore. Alors comment en est-on arrivé là ? Un peu plus tôt dans la journée d'hier, Donald Trump s'était adressé à ses partisans, parlant encore une fois d'une élection volée, façon d'attiser la violence. Les réseaux sociaux, Facebook puis Twitter, ont décidé de façon extraordinaire de suspendre les comptes du président Loïc Piala.
Twitter a d'abord publié un avertissement à côté de la vidéo du président américain. Répéter ses accusations de fraude, c'était jeter de l'huile sur le feu, vu le contexte, a justifié Twitter qui a ensuite retiré le message. Autre tweet effacé, celui où Donald Trump dit que sa victoire a été, je cite, « arrachée vicieusement à de grands patriotes maltraités depuis trop longtemps ». Son compte est provisoirement suspendu et le réseau social n'écarte pas de le supprimer définitivement en cas de récidive. L'homme aux 89 millions d'abonnés serait alors privé de son moyen de communication privilégié avec sa base. Jamais Twitter n'avait sévi aussi durement contre Trump, protégé par son statut de chef d'État. Facebook et YouTube ont aussi retiré la vidéo, de quoi donner du grain à moudre à ses partisans qui accusent depuis des années la Silicon Valley d'être injuste avec les conservateurs.
Les républicains, en tout cas, pourraient se réveiller plus divisés que jamais aux États-Unis, minoritaires à la Chambre des représentants et désormais au Sénat. Face au coup de force de Donald Trump et selon plusieurs médias, des membres du gouvernement américain auraient discuté de la possibilité d'écarter le président du pouvoir. Échange hier à propos du 25e amendement de la Constitution américaine. Il autorise le vice-président ainsi qu'une majorité du cabinet à déclarer le président inapte à exercer ses fonctions. Pour le moment, aucune proposition formelle n'a été présentée au vice-président Mike Pence. Nous retournerons à Washington dans le journal de 7h sur France Culture et puis nous ouvrirons la discussion ce matin avec les invités de Guillaume Erner. Ce sera à partir de 7h40. L'Union européenne va pouvoir accélérer les vaccinations après l'autorisation d'un deuxième vaccin hier. Feu vert donné par Bruxelles pour le sérum du laboratoire américain Moderna. Les premières livraisons pourraient donc commencer la semaine prochaine, alors qu'une grande partie du continent entame un troisième confinement face au Covid-19. C'est le cas depuis hier en Grande-Bretagne, où la version britannique du virus pourrait faire des ravages, Éric Biegala.
C'est la raison donnée par Boris Johnson pour reconfiner complètement son pays, la variante britannique de la Covid-19. C'est en tout cas, selon le chef du gouvernement britannique et ses services sanitaires, le principal responsable de la propagation catastrophique de l'épidémie en Grande-Bretagne ces dernières semaines. Une version du virus pas forcément plus dangereuse, mais qui se propage avec beaucoup plus de force. Et d'ores et déjà, 16 autres pays européens, du Danemark au Portugal, de la Belgique à Chypre, en passant par la France, ont repéré des porteurs de la variante britannique. Mais elle semble avoir essaimé bien au-delà, puisque 20 autres pays, du Vietnam aux États-Unis, la signalent également. Et puis il y a aussi la variante sud-africaine. Là également, il s'agit d'une mutation du virus, une autre, il y en a eu des milliers. Mais celle-là, potentiellement, encore plus dangereuse, puisque contrairement à la variante britannique, les vaccins pourraient ne pas être efficaces contre elle. 3 pays européens ont signalé une contagion sur leur sol de la variante sud-africaine du virus, la Finlande, la Suède et la France.
La France ou un point sur la vaccination et sur d'éventuelles mesures restrictives. Ce point sera fait ce soir à 18h, conférence de presse prévue par le Premier ministre Jean Castex. L'exécutif, critiqué pour la lenteur de la vaccination dans le pays, a promis plus de transparence. Mais les contrats qui lient l'Union européenne avec les laboratoires restent toujours cachés. Qui portera par exemple la responsabilité en cas de problème? L'avocat Fabrice Dividio pose la question très directement au ministère français de la Santé ainsi qu'à la Commission européenne. Il leur a envoyé un courrier à ce propos cette semaine et il s'explique.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir à quel prix ont été achetés les vaccins, je m'en fiche quelque part. C'est même pas de savoir si effectivement ces vaccins sont efficaces ou non d'une certaine façon. La vraie problématique, c'est pourquoi est-ce que ces accords sont confidentiels, premier élément. Deuxième élément, comment expliquer s'il y a une clause de décharge de responsabilité, comment est-elle rédigée? Parce que s'il y a bien une clause d'exonération de responsabilité, elle est illégale. C'est simplement s'il y a une clause de garantie de responsabilité que c'est légal. Et encore, et dans quelle proportion, et comment est-elle rédigée, et pourquoi? C'est naturel, en fait, de savoir. C'est comme les bons de commande pour les masques et les tests. Je les avais demandés, finalement, je les avais obtenus. Et on a découvert à cette occasion qu'il y avait un problème sur les commandes de masques et de tests. Les dates auxquelles les commandes ont été passées, on a découvert, en fait, que les premières réelles commandes ont été faites après le confinement, alors que le ministère nous expliquait qu'il avait commandé les masques dès février. Or, en l'occurrence, c'est faux. Et donc ici, la vraie question, c'est que contiennent ces contrats?
C'était l'avocat Fabrice Dividio, interrogé pour France Culture par Bénédicte Robin. La Cour de cassation a annulé hier la relaxe des héritiers de la famille de marchands d'art Wildenstein. Ils sont poursuivis pour une fraude fiscale de plusieurs centaines de millions d'euros, Florence Turm.
À deux reprises, la décision de relax avait sonné comme un revers pour le parquet général qui avait requis de lourdes peines à l'encontre du principal prévenu, Guy Wildenstein. 2 ans de prison ferme, 250 millions d'amendes. Guy Wildenstein présenté comme le chef d'un clan accusé d'avoir sciemment dissimulé des centaines de millions d'euros au fisc. L'affaire avait éclaté lors des violentes querelles de succession qui avaient suivi le décès du patriarche, le marchand d'art Daniel Wildenstein. La bataille engagée par sa veuve avait révélé au grand jour l'étendue de la fortune, des centaines de toiles de maître avec une prédilection pour les impressionnistes, des pur sang champions de course et de somptueuses propriétés parmi lesquelles le ranch kényan où fut tourné à Out of Africa. Le ministère public s'était employé à décortiquer les montages financiers et les sociétés écrans logées dans des paradis fiscaux, mais la défense l'avait emporté sur le terrain procédural, dénonçant une fiction fiscale et surtout la prescription de l'affaire. La loi dite d'ailleurs loi Wildenstein qui oblige à déclarer au fisc ces sociétés et n'ayant été votée qu'après les faits dénoncés. Raisonnement suivi par la justice, qui avait néanmoins assorti cette relaxe d'une précaution oratoire, tout en décrivant une claire intention d'évasion patrimoniale et fiscale, le tribunal avait estimé ne pas disposer de preuves suffisantes pour condamner, mais prédit que sa décision serait incomprise du peuple français. L'affaire va donc revenir devant la Cour d'appel de Paris, mais autrement composée pour un troisième procès.
Florence Turme. Encore quelques averses aux abords des côtes de la Manche ce matin. La grisaille va se décaler vers l'est au fil de la journée. Ailleurs, le ciel sera bien dégagé, notamment près de la Méditerranée. Ce matin, il fait moins 8 degrés à Aurillac, 2 à Paris et à Strasbourg, 4 degrés à Nice. Il est 6h40 et c'est l'heure du Journal des idées. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Un nouvel ouvrage sur l'invention de l'écriture paraît aujourd'hui. Oui. Et c'est l'occasion, Jacques, de revenir sur cette question restée ouverte.
Oui, le livre est dû à une spécialiste de philologie mycénienne de l'université de Bologne, Sylvia Ferrara. Il est publié au Seuil sous le titre « La fabuleuse histoire de l'invention de l'écriture ». Un titre un peu fanfaron, mais conforme au ton direct et enthousiaste de l'auteur et à sa prodigieuse érudition qui va de l'Égypte ancienne à la Mésoamérique en passant par la Mésopotamie ou la Chine, voire à des écritures non déchiffrées comme en Crète ou sur l'île de Pâques. D'ailleurs, à rebours de son titre, Sylvia Ferrara questionne le terme lui-même d'invention pour lui préférer celui de processus, qui rétablit un lien entre les symboles inscrits sous forme de dessins et un ensemble articulé de significations comme l'écriture hiéroglyphique. Il y a 5000 ans, près de 2 millénaires avant l'invention de l'écriture, les Sumériens en Mésopotamie dessinaient des objets avec des nombres sur des biens qu'il faut sur des tablettes d'argile, pardon, pour enregistrer des transactions liées à leur temple, et déjà l'invention est en marche. Les biens qu'il faut rembourser au temple d'un côté de la liste, les chiffres de l'autre, et au-dessus d'eux, une canne de roseau. La canne se dit « gui » en sumérien, mais le mot a aussi un autre sens, « rembourser ». Le son est le même, la signification différente. En utilisant le symbole de la canne, le comptable dit une chose qu'il ne sait pas encore écrire. C'est l'étincelle de l'invention, bien avant la lettre, l'homophonie et la syllabe, la liste de choses à fixer. L'image du rébus est ici éclairante. Le son d'un logogramme peut signifier autre chose que ce que représente le dessin. Du logogramme, on peut passer à l'idéogramme. Le dessin d'un pied peut signifier marcher, et c'est parti. Un détour par l'une des quatre écritures présentes en Crète, la seule déchiffrée à ce jour, illustre l'importance de la syllabe comme élément de base commun au langage et à l'écrit. À côté des taureaux, partout présents dans l'iconographie et la culture minoenne, les chats jouent un rôle plus subtil. On les voit au milieu des signes avec leurs grands yeux et on les entend. Ils font « ma » et c'est aussi une syllabe. Toutes les premières écritures sont syllabiques et articulent ces briques de base de l'expression commune à l'oral et à l'écrit. Par rapport à cette invention, l'alphabet n'est qu'un épiphénomène, affirme Sylvia Ferrara, un produit démocratique et économique destiné à un succès qui n'avait rien de prévisible. On a souvent associé l'origine de l'écriture à l'administration des États naissants, et notamment aux inventaires comptables. Mais des empires comme celui des Incas ne sont pas passés de cette forme d'écriture à la notation de la langue, et à l'inverse, l'Égypte ou la civilisation sumérienne était déjà très développée à l'apparition de l'écriture. À Chypre, île de tous les mélanges, l'écriture minoenne adoptée pour la langue chypriote n'est pas utilisée pour la gestion mais pour le plaisir et, je cite, « pour se la péter ». Qu'est-ce qui manque à mon bel anneau en or ? Il ne manque que la touche finale, une inscription. À son stade le plus contemporain, l'écriture se développe aujourd'hui dans l'écosystème numérique du web. Blog littéraire, twitterature, écriture profilaire consistant à investir les plateformes avec des profils d'emprunt. Kenneth Goldsmith, militant pour une écriture du plagiat et auteur de l'écriture sans écriture, défend le principe du génie non original contre la figure romantique et solitaire du génie en littérature façon 19e siècle. Selon lui, Du copiste médiéval à l'adepte du détournement situationniste, toute une culture de l'écriture à seule fin d'elle-même a préparé cette utopie d'une critique du travail et de la valeur dans l'espace sans valeur de la poésie. Dans la dernière livraison de la revue Communication et langage, Servan Monjour, professeur de littérature comparée à la Sorbonne, étudie cette forme d'écriture littéraire sur de nouveaux supports et rappelle ses affinités avec les avant-gardes. Outre un principe d'innovation technologique, sont valorisés les effets de discordance avec la tradition, d'écart esthétique ou de déviation. Autre époque, autres enjeux. Dans Trac, Trace, Cécile Portier pratique une forme d'écriture littéraire des données, créée par la fiction de fausses données numériques, venant s'ajouter à la masse des données réelles, comme un cheval de Troie, pour tromper les algorithmes et écrire sur les sismographes sociaux qui nous écrivent. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Julie Gagnon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
C'est l'heure des enjeux internationaux. Aujourd'hui, la priorité de Nicolas Maduro après les législatives au Venezuela, privatisée.
Oui, avant des matins largement consacrés aux États-Unis, on s'intéresse dans les enjeux internationaux à la situation au Venezuela, dont le président Nicolas Maduro condamne d'ailleurs ce matin les violences de cette nuit au Capitole, le siège du Congrès à Washington. Plusieurs médias vénézuéliens ne manquent pas d'ailleurs de rappeler qu'à Caracas, le Parlement aussi avait été le théâtre de scènes d'émeutes en 2017 à l'initiative des partisans du Parti socialiste au pouvoir et contre les élus d'opposition, alors majoritaires dans cette assemblée unicamérale. Il y avait eu des blessés, la comparaison bien sûr s'arrête là. À Caracas, le nouveau Parlement a pris ses fonctions avant-hier et Nicolas Maduro y a retrouvé une majorité écrasante. Sur les 277 sièges, 256 sont désormais occupés par le Parti Socialiste Unifié. Le mandat de Juan Guaido comme président du Parlement a officiellement pris fin par la même occasion. L'opposition a déserté les bancs du Parlement après avoir appelé au boycott des élections. Alors qu'envisage de faire Nicolas Maduro de cette majorité parlementaire? Eh bien l'une de ses priorités en effet, c'est de privatiser un certain nombre de secteurs économiques, privatisés et non nationalisés, comme on pourrait s'y attendre de la part du successeur socialiste d'Hugo Chavez. Bonjour Thomas Posado, bonjour. Merci d'être bonjour. Avec nous ce matin. Vous êtes docteur en sciences politiques à l'université Paris 8, chercheur associé au CRESPA CSU et chargé de cours à Aix-Marseille Université. Alors Thomas Posado, quand Nicolas Maduro parle de privatisation, on sait déjà quels secteurs sont concernés, puisqu'en octobre dernier, une loi a été votée par ce qu'on appelle l'Assemblée constituante chaviste, loi qui doit faciliter les investissements sous anonymat à un secteur très précis, le pétrole. Sous anonymat, pour contourner les sanctions américaines, on imagine ?
Oui, tout à fait. C'est même le nom de cette loi, c'est une loi appelée loi anti-blocus. Alors cette loi, effectivement, elle choisit d'ouvrir aux capitaux étrangers, un certain nombre de secteurs, y compris en contradiction avec le texte de la constitution actuelle du Venezuela, qui garantit l'appartenance à l'État des sous-sols vénézuéliens.
Des sous-sols parce qu'il s'agit effectivement principalement de pétrole. Qui serait intéressé pour investir dans un secteur en très grande difficulté, très fortement pénalisé par les sanctions? A priori, ce sont plutôt des investisseurs étrangers, puisque c'est aux étrangers que s'adresse cette loi.
Oui, tout à fait. C'est plutôt parmi les étrangers, les entreprises venant de pays alliés géopolitiques de Nicolas Maduro. Donc on pense essentiellement à la Russie et à la Chine dans ce cadre-là, qui sont susceptibles d'affronter les mesures états-uniennes.
Et on parle aussi à un moment de discussion avec des entreprises espagnoles ou italiennes. Les entreprises européennes pourraient vraiment avoir envie de se lancer dans cet imbroglio?
Alors, je peux pas garantir que certaines entreprises s'engagent ou pas, mais effectivement, ce sera assez compliqué pour des entreprises européennes, parce qu'effectivement, tout investissement au Venezuela est menacé par ces sanctions des États-Unis. Donc, il y a un bras de fer à chacun des investissements. Et certaines entreprises espagnoles continuent ou italiennes continuent d'exercer sur le sol vénézuélien, mais ces investissements sont très contraints. Donc, ce serait pas sans doute le cas majoritaire de ces investissements s'ils adviennent.
Et c'est toujours compliqué, disent les spécialistes aussi, de signer des contrats à plusieurs milliards de dollars sous anonymat. Donc on va voir ce que donne cette décision qui, c'est une question, est-elle vraiment politique, pleine de conviction, ou est-ce que Nicolas Maduro simplement n'a pas le choix pour relancer le pétrole en injectant des capitaux privés?
Alors c'est un choix évidemment contraint dans une situation où il est isolé géopolitiquement et où il fait face à une crise de liquidité. Après, il y a des dizaines de possibilités, hein, c'est toujours un choix politique. Enfin, ses collègues cubains durant la Révolution avaient choisi de nationaliser en masse. Là, c'est un choix qui est rigoureusement l'inverse, dans une situation économique tout à fait catastrophique où l'économie s'est contractée de plus de 70% ces 6 dernières années et où l'État vénézuélien est en défaut partiel de paiement sur plusieurs de ses dettes. Donc effectivement, ce choix, il est contraint dans une réalité économique extrêmement lourde. Il reste un choix politique en tant que tel où il y avait des dizaines de possibilités et Nicolas Maduro a choisi celle-là en particulier.
Pour relancer un secteur du pétrole dont la production est tombée à moins de 400 000 barils par jour ces derniers mois, on est loin des 3 200 000 barils il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années. Nicolas Maduro s'y prompte souvent à invoquer le débat national, ne l'a pas convoqué pour un sujet aussi important.
Non, après, enfin, c'est une norme de débat politique au Venezuela qui est très vertical, qui est un mode de fonctionnement très autoritaire qui est confirmé d'année en année et où les contestations qui existent sur ce texte au Venezuela, il y a eu des manifestations contre ce texte parce qu'il est considéré comme bradant les ressources du pays à l'étranger, ne sont pas prises en compte par le gouvernement de Nicolas Maduro.
C'est vrai que dans le même temps, Nicolas Maduro, il a entrepris un grand processus de décolonisation. Ça fait longtemps qu'on célèbre au Venezuela le jour de la résistance indigène, jour de la découverte des Amériques par Christophe Colomb le 12 octobre 1492. Maduro, il a rebaptisé l'autoroute principale de Caracas en lui donnant le nom d'un chef indigène. Elle portait jusque-là le nom d'un, comme il dit, un chef génocidaire. Alors sans vouloir évidemment comparer la conquête et la colonisation espagnole à ce qui est en train de se passer, mais il y a quand même un discours sur la souveraineté du Venezuela qui est en fait mis à mal par la pratique en ouvrant l'économie aux capitaux étrangers.
Complètement, c'est effectivement une contradiction majeure entre le discours et la pratique. Alors il faut le relativiser parce que cette pratique pragmatique, on pourrait dire opportuniste, elle existe déjà depuis longtemps au Venezuela. On parle souvent de socialisme, mais l'économie reste majoritairement privée. Et on est dans cette situation où la crise est tellement grave que, en fait, Nicolas Maduro, on a tient à prendre des mesures qui favorisent les investissements étrangers, effectivement en contradiction totale avec tout le discours sur la souveraineté nationale qu'il promeut. Mais à partir du moment où les finances de l'État sont dans l'état dans lequel elles sont, c'est-à-dire particulièrement asséchées, son choix, effectivement, il est pragmatique ou opportuniste selon comment on le voit les choses, mais totalement en contradiction avec le discours qui est prononcé depuis l'État, effectivement. Ouais.
Un écrivain et homme politique vénézuélien, Teodoro Petkov, dit que Hugo Chavez, à la fin des années 90, déjà, lui avait dit vouloir vendre une importante filiale de la compagnie pétrolière publique du Venezuela, ce qui aurait rapporté à l'époque au pays 10 à 15 milliards de dollars, mais il ne l'avait pas fait. Par ailleurs, les États-Unis, si souvent vilipendés par le Venezuela, étaient jusqu'à encore, juste avant les sanctions de 2017-2018, le premier partenaire commercial du Venezuela. Dans quel domaine, dans quel secteur ?
Principalement pétrolier, hein, c'est-à-dire que le Venezuela est monodépendant au pétrole et c'est vraiment la principale ressource du pays. Et jusqu'aux sanctions, vous le disiez avec raison, jusqu'aux dernières sanctions les plus récentes, les États-Unis étaient le principal fournisseur et le principal client du Venezuela, principalement sur ce secteur pétrolier, oui.
Est-ce qu'on sait d'ailleurs si, avec l'élection de Joe Biden, ces sanctions qui ont été prises à l'encontre du Venezuela en 2017 vont être levée, est-ce que ce serait suffisant surtout pour relever l'économie vénézuélienne ?
Alors à court terme, non, mais effectivement, enfin, si ces sanctions étaient levées, ce serait un oxygène important pour cette économie vénézuélienne qui est aux abois. Est-ce qu'on sait si Joe Biden va le prendre en compte? C'est une des grandes inconnues des semaines qui vont venir. Il a promis de revenir sur un certain nombre de sanctions de Donald Trump. Il a un certain nombre de raisons de le faire parce que la stratégie Guaido a échoué. Maintenant, enfin, il a nommé Anthony Blinken comme secrétaire d'État aux États-Unis. Et Anthony Blinken, c'est plutôt quelqu'un qui est jugé interventionniste sur tous ces aspects de politique étrangère. Donc, ça relativise la portée de cette levée des sanctions. Mais enfin voilà, c'est toujours incertain. Et puis en ce moment aux États-Unis, je pense que la question vénézuélienne est pas celle qui discute le plus, surtout dans la conjoncture aussi dramatique qu'ils ont connue cette nuit.
Est-ce qu'il y a, Thomas Posado, des secteurs à l'inverse au Venezuela complètement nationalisés de l'économie vénézuélienne et maintenus comme tels par conviction politique ?
Oui, tout à fait. Alors depuis 2007, il y a un certain nombre de nationalisations qui sont où le poids du secteur public a tendance à augmenter, et d'autant plus parce que le secteur privé s'effondre avec la crise actuelle. Mais oui, il y a un certain nombre de secteurs dits stratégiques qui ont été nationalisés par Chavez à partir de 2007, et qui pour l'instant le reste. Après, c'est des secteurs qui sont en langue de partie improductifs par manque d'investissement et par gestion un peu erratique.
C'est vrai que l'économie publique a repris de la place au Venezuela sur l'économie privée, mais davantage parce que le privé a chuté plus brutalement que le public que par investissement politique dans le secteur public. Merci beaucoup Thomas Posado d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques à l'université Paris 8 et chercheur associé au CRESPA CSU, chargé de cours à Aix-Marseille Université. Je vous souhaite une bonne journée.
Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Ce dimanche, France Culture est en direct et sans public du Théâtre de la Ville, Espace Cardin, à Paris. À 11h, avec l'esprit public d'Émilie Aubry et ses invités, suivi de Signe des temps de Marc Betzman à 12h45. Deux émissions à écouter sur France Culture et à voir sur le site du Théâtre de la Ville, YouTube et Facebook. Plus d'infos, théâtredelaville-paris.com et franceculture.fr.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Vous écoutez France Culture, il est 6h57. Bonjour Guillaume Herner.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
C'est votre humeur du jour Guillaume. Une image demeurera de l'invasion hier soir du Capitole à Washington aux États-Unis.
Et cette image, il va falloir énormément de science aux générations futures pour la comprendre. On voit donc ces manifestants à l'intérieur du Capitole et plus particulièrement trois personnages. Un personnage central, il est doté d'un accoutrement qui peut faire songer à celui du chanteur de Jamiroquai dans certaines de ses prestations, grand balèze, torse nu, en pantalon de suite, une tête ornée d'un couvre-chef en fourrure, muni de deux cornes de roc, je suis désolé, c'est compliqué mais c'est comme ça, hein, une sorte de chaman en solde sur Amazon, si vous voyez ce que je veux dire. Sur son torse, au-dessus du cœur, un tatouage votaniste, j'ai bien dit votaniste. Le votanisme étant un gloubi-boulga prisé des nazillons, censé être inspiré du dieu Votan, principale divinité du panthéon germanique, l'équivalent dans le domaine de la métaphysique de Goldorak pour l'astrophysique. Et comme si ce tatouage ne suffisait pas, ce manifestant pro-Trump arbore aussi un glaive tatoué dont on imagine la lame sur son pubis. Son visage est maquillé aux couleurs du drapeau américain. Je sais, c'est étrange, mais c'est comme ça. De chaque côté de lui, deux hommes, donc des apôtres de la religion païenne, on imagine. Alors eux, ils sont tout droit sortis du Big Lebowski. Barbe et sweat informe, le visage fatigué par des heures passées devant les écrans. Et pour qu'on comprenne bien, hein, au cas où il y aurait une ambiguïté, l'un d'entre eux porte un drapeau Trump président. une image effrayante et hallucinante. Car voilà ce qui menace la démocratie américaine, un imaginaire délirant hérité du fond de la sous-culture, une sorte de magma où les pires symboles pagano-virilo-chauvinistes tiennent lieu de colonnes vertébrales. Alors, certes, il ne faut pas mésestimer le ridicule des réunions nazies, le grotesque du folklore fasciste, mais ici se trouve la rencontre de ce ridicule-là, nazi-fascistoïde, avec les pires créations des séries Z. Et je dis ça faute de mieux parce qu'en réalité, j'ai beaucoup de respect, beaucoup plus de respect évidemment pour les séries Z. Ça fait des siècles, en parlant d'imaginaire, que l'on sait qu'il n'y a pas loin du Capitole à la roche tarpéienne, que l'on peut aisément passer du Capitole à ce lieu escarpé d'où étaient précipités les condamnés à mort, mais ce que l'on ne sait pas, c'est que le jour où l'on tenterait d'extirper la démocratie du Capitole, le bourreau ressemblerait à un bouffon en chef.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Scène de chaos donc hier à Washington DC, des dizaines de manifestants pro-Trump ont envahi le Capitole alors que se tenait la session de certification qui devait confirmer donc la victoire de Joe Biden. Après plusieurs heures de siège, les forces de l'ordre ont pu reprendre le contrôle de ce symbole. On parle de cet événement et de ses conséquences en compagnie de Romain Huret, historien des États-Unis et directeur d'études à l'EHESS, et il sera rejoint à partir de 8h20 par l'ancien ministre et diplomate Hubert Védrine. 7h sur France Culture, nous sommes le jeudi 7 janvier 2021. Bon réveil à tous.